Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va débattre des grands sujets de l'actualité, les législatives, mais aussi des questions de sécurité, parce que je pense que les deux sont intimement liés. Les résultats des législatives sont aussi une conséquence des questions de sécurité, de pouvoir d'achat, qui n'ont peut-être pas été traitées à leur juste valeur. On est avec le commissaire David Lebars. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, UNSA. Julien Drey, là, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur du mouvement Réinventé. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire.
Bonsoir.
Bonsoir Gabriel. Les législatives d'abord, avec ces résultats qui laissent présager une assemblée assez ingouvernable, avec une majorité relative pour Emmanuel Macron, et puis deux pôles très forts, la NUPES à gauche et le Rassemblement National, avec 89 députés. On va se tourner vers notre correspondante Élodie Huchard, qui se trouve devant l'Assemblée Nationale avec Charles Baget. Élodie, bonsoir. Le Rassemblement National aura donc un groupe extrêmement important. C'est une première dans l'histoire de ce mouvement.
Oui Laurence, et puis surtout il faut se rappeler d'où il part. Dans la législature précédente, il n'avait que 8 députés affiliés au Rassemblement National, donc pas de groupe. Il en faut au minimum 15. Marine Le Pen, il y a encore une semaine, elle était très prudente sur le nombre de députés qu'elle souhaitait afficher. Elle nous disait plusieurs dizaines, ça sera donc presque 90 députés. Évidemment, ça va tout changer pour eux. Ils ont un groupe, ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel, ils ont un temps de parole dans l'Assemblée nationale, donc forcément ça permet une plus grande exposition. Marine Le Pen qui avait eu une stratégie totalement à l'opposé de celle de Jean-Luc Mélenchon. Assez tôt dans la campagne, elle avait dit qu'elle supposait qu'Emmanuel Macron aurait une majorité, qu'elle ne prétendait pas devenir première ministre de la France. Dans les rangs, à ce moment-là, ça avait un petit peu tangué. On se demandait pourquoi elle n'était pas plus ambitieuse. Finalement, aujourd'hui, les mêmes nous disent qu'elle a eu raison finalement de ne pas être trop gourmande. De la même manière, on lui a reproché parfois d'avoir été trop absente après l'élection présidentielle, d'avoir pris du repos pour elle. Finalement, aujourd'hui, on nous explique que ça n'était pas du tout du repos, mais qu'elle a pris le temps de regarder investiture par investiture qui était le bon candidat. Donc forcément aujourd'hui, on a vu quelques députés du Rassemblement National, notamment Sébastien Chenu. On sent qu'ils sont soulagés premièrement par le fait d'avoir déjà l'existence de ce groupe. Et puis surtout, on le rappelle, le Rassemblement National devient le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée.
Effectivement, et ça c'est un fait politique important. Merci Élodie Huchard, avec Charles Baget à l'Assemblée Nationale. Julien Drey, on a beaucoup sous-estimé la capacité du Rassemblement National à envoyer autant de députés à l'Assemblée. Est-ce que c'est un fait? On n'a pas voulu voir cette réalité-là. Les sondeurs se sont trompés. Les médias n'ont pas vu arriver cette vague de députés.
Non, c'est-à-dire qu'il y a eu un emballement médiatique d'octobre-novembre jusqu'à fin janvier autour de la candidature d'Éric Zemmour, qui laissait entendre qu'en gros, il était en train de supplanter le Front National. Elle a, je crois, montré une intelligence politique. Elle a évité l'affrontement avec lui, elle l'a laissé s'enliser dans sa propre campagne, et elle a fait un profil qui pouvait apparaître comme no profile, mais qui en fait banalisait le vote pour sa candidature. Donc elle a fait preuve d'intelligence politique. Ça me permet, incidence, qu'il va falloir que la gauche aussi réfléchissent autrement. Parce que j'entendais hier dans les débats, une partie des gens de la France Insoumise dire le front républicain n'a pas marché parce que, etc.
Il pointe du doigt la responsabilité des électeurs d'Emmanuel Macron qui, dans les duels NUPES-RN, n'ont pas fait barrage, effectivement.
Je pense qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire dire aujourd'hui, dans l'opinion publique, Marine Le Pen, c'est l'équivalent de la fasciste, je ne sais pas quoi, etc., ne marche plus parce qu'elle a réussi, dans cette campagne électorale, à sortir enfin de ce carcan-là. Donc, les gens vous regardent en disant « Mais pourquoi qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter ?» Et ça, ça veut dire que la bataille contre Marine Le Pen ne peut plus se situer dans cette histoire de front antifasciste. Voilà. D'autant que on voit bien qu'il y a toute une série d'arguments qui, ont été... si vous me permettez, moi je pense que c'est simple, quoi. La police tue, ça.
Ah oui.
La police tue, ça.
De Jean-Luc Mélenchon, ça.
Ça produit son effet. C'est-à-dire ça. Le problème de ce qui se passe est très simple. Vous avez une radicalisation sur un extrême, et cette radicalisation d'un extrême ou d'une frange produit par l'inquiétude qui suscite dans la société une radicalisation du reste de la société, ouais, de l'autre côté. Mmh. C'est un phénomène qu'on a très bien connu dans les années 30. Mmh. Et il va falloir quand même qu'à un moment donné, cette question soit posée. Alors, évidemment, c'est iconoclaste, parce qu'on va me dire que je suis en train de pointer le problème de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a un problème. Mais Jean-Luc Mélenchon, il connaît cette histoire. Hein. Il l'a apprise avec moi. Voilà, c'est lui qui me l'a appris ou moi je lui ai appris. Bon, donc il est en train, il va falloir qu'il regarde un peu ce qui est en train de se passer. Parce que je m'excuse, mais il devait être président de la République, il l'a pas été. Il devait être Premier ministre, il l'a pas été. Il nous a annoncé qu'il allait faire une trajectoire extraordinaire. Bon, oui, mais so what.
Et il n'a pas le premier groupe d'opposition.
Et il n'a pas le premier. Alors là, il essaye maintenant de nupéiser toute la gauche pour essayer d'avoir, mais ça ne va pas.
On va continuer. Juste, commissaire Lebars, la police tue. Évidemment, ça fait bondir les policiers dont vous faites partie. Ça a marqué l'opinion publique, vous pensez ?
Alors, l'opinion publique, je ne sais pas, mais moi je rejoins Julien Drey, mais je ne suis pas un analyste politique. Donc en revanche, j'ai un avis personnel. Sur Twitter, mon syndicat a posé la question. À qui ça profite ? Je ne suis pas certain que ça ait profité à Jean-Luc Mélenchon, mais c'est sa stratégie politique. Tout ce qu'on voit, nous, policiers, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'électeurs ou policiers, il y a une dispersion sur l'Assemblée nationale. En revanche, dans les rangs, la police tue, c'est plus qu'une insulte, parce que elle est à la fois vraie sur le plan de la sémantique, je vais être très précis parce qu'il va falloir être prudent, c'est-à-dire que dans son action de riposte face absolument au crime, il peut arriver que la police, par le résultat qu'elle produit, tue, mais dans la sémantique politique, on sait très bien que c'est une sémantique d'extrême gauche et que c'est fait pour nous salir. Ça sous-entend, attention, les flics sont dans la rue, ils vont vous tirer dessus. Or, c'est faux. Et on en parlera sans doute peut-être avec des derniers refus d'obtempérer qui ont eu lieu ce week-end. Donc, on est habitué, hein, je vous l'ai souvent dit, depuis 5 ans à être sali par Jean-Luc Mélenchon, qui a fait de la police un de ses souffre-douleurs, institution sur laquelle on s'essuie les pieds. Et vous savez que derrière l'institution, il y a des hommes et des femmes et qu'on trouve ça absolument abject. Après, ça va jusqu'au ridicule. Vendredi ou samedi, il y avait un clip, excusez-moi, mais grotesque, d'Hugo Bernal ici, qui s'est amusé à faire
de
un
la
rap
France Insoumise.
De mauvais goût en se mettant Hugo à Beauvau. Bon, ça pourrait presque être drôle si ça n'était pas tragique. Oui. C'est-à-dire que c'est tellement sérieux, les sujets de sécurité. Soit on nous salit, soit on se moque de l'institution. On n'a pas besoin de rigolo à Beauvau pour faire le même jeu de mots qu'Hugo Bernal ici. On a besoin d'un ministre sérieux, tout comme les Français. Les Français, ils ont besoin de sécurité. Donc nous, on regarde ça en tant qu'électeurs et en tant que citoyens, mais en tant que policiers républicains, on a envie d'un ministre républicain.
D'accord. Gabriel Cluzel, d'abord sur le score du Rassemblement National, et peut-être pas en écho avec ce qui se passe du côté de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon.
Oui, ça montre déjà qu'il faut se méfier de la grosse caisse médiatique et politique, parce que de fait, elle s'est trompée. Tout nous portait vers un duel Emmanuel Macron-Nupes. Alors Emmanuel Macron, maintenant, il est bien ennuyé, parce qu'il a plutôt envoyé des signaux, par exemple, en nommant un ministre de l'Éducation plutôt Nupes compatible. Il avait fait les yeux de chimène à Nupes, et maintenant, il se rend compte que c'est peut-être pas forcément de ce côté-là qu'il fallait regarder. De fait, on n'a pas anticiper ce résultat du Rassemblement National. Marine Le Pen a peut-être profité, comme elle avait profité du paratonnerre Éric Zemmour, vous en avez parlé, a peut-être profité du paratonnerre Jean-Luc Mélenchon, qui a attiré toutes les attentions et qui a fait finalement en creux campagne pour elle, vous l'avez dit, parce que elle n'avait pas besoin de beaucoup s'agiter. Lui, par ses propos outranciers, a engagé finalement un certain nombre de Français à voter pour elle. Par ailleurs, comme elle sait qu'elle porte des idées très fortes, elle n'a pas besoin de les dire très fort, justement, parce que et de montrer les muscles, parce que ses idées en soi sont très fortes. Je pense que pour elle, c'est quand même une consécration, il faut le dire, et elle a été très décriée, tout le monde disait elle n'arrivera jamais à faire sauter le plafond.
C'est la validation de sa stratégie.
Exactement, c'est la validation de sa stratégie, je pense que de ce côté-là, ça ne fait pas tellement de doute.
On va faire une toute petite pause. Je passerai la parole à Gilles Maintré. Vous venez de nous rejoindre, président d'Electis. On continuera à parler de ces élections législatives. Et puis aussi, on parlera de sécurité. On est avec le commissaire Lebars. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur le plateau de Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec le commissaire Lebars, avec Gilles Maintré, essayiste, président d'Electis, avec Julien Drey, Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Gilles Maintré, un tout petit mot sur le Rassemblement National, Marine Le Pen. On l'a sous-estimé ou est-ce qu'on a vu arriver quand même le fait qu'elle aurait un groupe important à l'Assemblée Nationale ?
Non, c'est pas faute de l'avoir dit sur ce plateau. On l'a sous-estimé depuis le, disons, l'élection présidentielle. On a dit, oh, elle est partie en vacances, elle n'a pas fait campagne. Elle a refait exactement le même coup que la présidentielle, c'est-à-dire une campagne de terrain, très implantée, à bas bruit. Je pense qu'il y a quand même deux partis, deux personnages politiques qui ont une lourde responsabilité aujourd'hui. On l'a dit, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a non seulement servi, on l'a dit, de paratonnerre, mais plus que ça, qui a contribué à banaliser quand même une rhétorique un peu dangereuse pour nos institutions de Marine Le Pen, parce que finalement, considérer que la Constitution, on peut la changer comme ça, par simple vote, ben voilà, c'est maintenant Jean-Luc Mélenchon l'a lancé, considérer que les contre-pouvoirs, que la justice, les médias, ben, jusqu'à présent, c'était que le Rassemblement National. Ben non, maintenant, c'est rentré dans les mœurs publiques.
Donc lui aussi a contribué à banaliser Marine Le Pen.
Alors, il a contribué, en tout cas, ce discours qui est un discours radical contre les institutions, contre une certaine partie de la République. C'est devenu le débat quotidien. On l'a vu, on l'entendait tous les jours dans les journaux grâce à Jean-Luc Mélenchon. Et puis l'autre parti qui a une responsabilité, c'est bien sûr En Marche, hein, Renaissance. Je pense que, par exemple, simple phénomène du Stade de France, cette volonté de nier l'évidence, hein, de voir qu'il y a de la délinquance et essayer de dire à la France qu'il n'y a pas de délinquance, pas du tout, il n'y a qu'un problème de supporters devant l'évidence, eh bien ça donne évidemment du souffle au RN.
Vous êtes d'accord avec ça, commissaire Le Bars? Les événements du Stade de France ont pesé dans le scrutin d'hier et de la semaine dernière?
C'est probable, et en plus sans les images. Ce qui est quand même inquiétant. Moi, je reste toujours un peu dans l'incompréhension que les choses n'aient pas été dites, comme j'ai essayé de le faire à mon modeste niveau, parce que
redis-nous.
Bah c'est limpide, sincèrement. C'est des choses simples. Vous savez que j'ai été commissaire de Saint-Denis. Vous avez un enchaînement de choses qui dysfonctionnent et qui aboutissent après à un chaos, parce qu'on n'arrive pas à se remettre sur pied sur le service d'ordre. L'enchaînement, c'est d'abord la grève des transports qui amène les gens au mauvais endroit avec une fausse billetterie qui fait qu'ensuite ça pousse, qui fait qu'ensuite le barrage cède, qui fait qu'ensuite les voyous locaux en profitent pour escalader les grilles, je le fais très simplement, et qui fait qu'ensuite, comme c'est le chaos, les délinquants, ceux qui s'approprient les biens des autres et qui peuvent faire d'ailleurs d'autres infractions graves, je vous en ai parlé sur ce plateau, se mettent à être des délinquants puisque le service d'ordre est désorganisé, aussi bien à l'entrée d'ailleurs qu'à la sortie. Résultat, c'est un chaos complet. C'est pas très simple une fois qu'on le dit comme ça, c'est pas très compliqué, je viens de vous le dire en 20 secondes.
Et après, le marché, on efface les images. Hein,
alors, pour être là-dessus, sûr que... vous savez, j'ai déjà répondu, personne n'a effacé les images. Il y a des systèmes de vidéoprotection automatisés qui auto-écrasent au bout d'un certain temps en fonction du choix que vous avez fait avant.
Il aurait peut-être fallu que la justice les réclame.
Oui. Alors, oui, mais vous savez bien aussi
désorganisation de l'État.
C'est le procureur de la République qui devait ouvrir une enquête et faire en sorte que les images soient requises. Voilà, pour le coup, ça, c'est pas côté
police. J'entends ce que vous me dites. Oui, mais c'est un signal, un symbole.
Ça crée plus que le soupçon.
L'impuissance de l'État à faire la lumière là-dessus.
Je précise qu'il reste les images de vidéoprotection de la préfecture de police et qui seront largement parlantes parce qu'elles sont extrêmement nombreuses.
Gabriel Cluzel, là-dessus. Le Stade de France, ces événements du Stade de France ont pesé aussi sur le scrutin hier.
C'est probable, mais je les vois plutôt comme la cerise sur le gâteau, disons, parce que sur le gâteau, délétère insécurité qui mine ce pays et que les Français voient impuissants se développer. Et ça, c'est évidemment un des ressorts extrêmement importants du vote RN. Ça, il faut pas se leurrer. Peut-être que si on n'a pas vu venir ce vote, c'est tout simplement parce que c'est des idées qu'on n'a pas le droit d'exprimer. Et finalement, on ne peut les exprimer que dans l'anonymat de l'urne. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas la première fois, très honnêtement, qu'il y a une surprise, même s'il y a eu des hauts débats avec le Rassemblement National. Sans doute parce que les Français s'auto-censurent. Et ça aussi, cette auto-censure, ça participe de la colère. Quand on n'a pas le droit de parler, de pas dire ce que l'on voit, tout simplement, évidemment, c'est dramatique. Ce qui a été frappant, c'est ce qui a, me semble-t-il, marqué un certain nombre de Français, c'est que les Espagnols et les Anglais, eux, ont eu le courage d'en parler. Et puis avec des vrais mots, parce que nous, vous savez, en France, on utilise une nouvelle langue. On ne dit pas, pour parler des voyous des banlieues, on dit les jeunes, comme si tous les jeunes étaient des voyous. C'est stigmatisant pour les jeunes, puis ce n'est pas vrai. On parle des quartiers sensibles, pour parler des quartiers immigrés. Enfin, on a une espèce de nouvelle langue qui aseptise le débat et qui est très mauvais et qui fait monter la colère.
Je viendrai. Alors, sur les événements du Stade de France, Ils ont pesé, à votre avis, quand même, sur le vote d'hier?
Oui, c'est un ensemble. C'est un élément du Pulse qui a constitué le vote Front National. Alors, après, ce sera très compliqué de savoir lequel a le plus pesé. Mmh. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans la dernière semaine. C'est ça qui fait d'ailleurs que les instituts de sondage se sont plantés. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans la dernière semaine. Parce que c'est pour ça que je suis d'accord avec les événements, mais je pense que la phrase « la police tue », on fera une étude, mais elle a eu des conséquences terribles. Parce que j'ai vu dans la semaine, autour de moi, des tas de gens qui, jusqu'à maintenant, hésitaient, etc., et tout, se dire « il nous fait peur ».
Des gens de gauche, peur. Hein.
Oui, des gens de gauche, mais, ou le cœur central de la société, voilà. Il a commencé disait publiquement ce qu'il ne disait pas auparavant. Il nous fait peur. Et il nous fait peur par la police tue, mais il nous fait peur aussi parce qu'à partir de là, on regarde son programme et on se dit, s'il applique son programme, comment ça va fonctionner, où on va sur le plan économique. Mmh. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que je dis, la radicalisation d'une partie de la société a entraîné la radicalisation du cœur central. Et ça, ça s'est fait au détriment, y compris du macronisme, qui n'a pas vu venir ce qui se passait.
Alors, on va se plonger juste dans le détail des résultats d'hier, parce que c'est en allant dans le détail qu'on voit les fragilités de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon. Explication de Mathilde Moreau, on en débat ensuite avec vous.
S'unir pour avoir plus de poids à l'Assemblée nationale. C'est la proposition faite par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, malgré l'accord de l'ANUPS, qui prévoyait que chaque parti puisse former son propre groupe parlementaire.
L'ANUPS devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays.
Demande rejetée par certaines voix d'Europe Écologie Les Verts, du Parti communiste et du Parti socialiste, notamment l'ancienne chef de file des députés socialistes Valérie Rabault.
La gauche est plurielle, elle est représentée dans sa diversité à l'Assemblée nationale, c'est une force au service du peuple français. Vouloir supprimer cette diversité est une erreur et je m'y oppose.
Avec 71 députés pour la France insoumise, 26 pour le Parti socialiste, 23 pour Europe Écologie Les Verts et 11 pour le Parti communiste, la NUPES se présente comme la deuxième force politique de l'Assemblée nationale.
Gilles Mintré, Jean-Luc Mélenchon a tenté un coup. Il a dit, allez, on va se mettre en groupe, on va rester en groupe à l'Assemblée, comme ça on pourra contrer l'Assemblée nationale. Mais ça n'a pas marché.
S'il y a vraiment une caractéristique de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est mauvais perdant. Mauvais perdant. C'est-à-dire, c'était déjà le cas lors de la précédente présidentielle. Vous vous souvenez, il ne voulait même pas reconnaître ses résultats en 2017. Il a fallu attendre tard dans la nuit. Ensuite, là, la présidentielle, il a dit, mais c'est pas grave, élisez-moi Premier ministre, comme si jamais il n'y avait pas eu de présidentielle. Et maintenant, il veut refaire à nouveau le match en disant, comme s'il y avait une ambiguïté sur quel était le premier parti d'opposition, alors que c'est clair que ce n'est pas le LFI. Et donc, il veut refaire le match. Et bon, d'abord,
71 sièges pour LFI, 89 pour le RN.
Donc, voilà. Donc il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus que mauvais perdant, le terme est trop gentil. C'est que profondément, dans le logiciel de Jean-Luc Mélenchon, il y a toujours contesté la légitimité de ce qui est sorti des urnes et des institutions. Le président minoritaire, il n'est pas vraiment élu, on n'a pas vraiment perdu, etc.
Ils ont magouillé les chiffres.
Ils ont magouillé les chiffres, on triche, etc.
Et c'est un anarchiste.
Non, anarchiste non, au contraire, c'est quelqu'un partisan d'un État très centré autour de sa personne. C'est pas du tout ça l'anarchisme. Mais en revanche, on a envie de dire, c'est presque dommage pour lui, parce que quand même, Jean-Luc Mélenchon, il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il fait passer le groupe LFI, hein, qui était 17, ils sont 71, il a réussi à créer un mouvement. Et puis voilà, c'est jamais assez bien pour lui, et donc du coup, maintenant, il détruit ce qu'il a construit. J'ai envie de dire, tant mieux pour la République et pour la suite, parce que on l'a encore dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de dangereux du point de vue de ses idées sur les institutions, sur la République et sur la démocratie. N'empêche que, voilà, le groupe est là, et il va causer des dommages à l'Assemblée nationale.
Julien Drey, sur Jean-Luc Mélenchon.
Alors, il est peut-être mauvais perdant, mais c'est une stratégie politique, il l'a expliqué lui-même. Il dit, j'ai réussi à faire que le centre de gravité de la gauche ne soit plus là où il était auparavant. Le centre de gravité de la gauche auparavant, il était proche de ce qu'on appelait la social-démocratie, et c'est la social-démocratie qui réunifiait après toute la gauche autour d'elle. Il dit désormais, ce n'est plus le cas. Désormais, le centre de gravité, c'est moi. C'est ce qu'il a appelé lui-même, il l'a dit hier soir, désormais j'ai introduit dans la conscience des gens le terme insoumis qui sera ma marque de fabrique. Là, il projette d'ailleurs des choses qu'il a appris à travers les mouvements qu'il a fréquentés en Amérique latine. Et donc là ce qu'il tente dans les heures qui viennent de se passer, c'est qu'il essaye d'enfermer définitivement la gauche, en la nupéisant totalement, et d'empêcher qu'une alternative politique à gauche puisse exister indépendamment de lui. Parce que le bilan, il faut aussi le poser. Le Parti Socialiste, qui était la force historique, le premier secrétaire avait dit, grâce à ça, vous allez voir, il a moins de députés qu'il en a au départ. C'est pas quand même très brillant comme bilan. Alors, ceux qui sont députés vont dire, formidable, j'ai sauvé mon siège, mais c'est pas ça la dynamique. Donc, la question qui est posée, d'un certain point de vue, celui qui l'a bien posée, c'est Fabien Roussel, dès hier soir.
Il dit, le leader du Parti communiste.
Il dit, moi, je ne veux pas d'une gauche qui soit sous une tutelle politique qui n'est pas la mienne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rassembler, mais la question qui est posée, y compris dans le débat politique qui vient, si on veut que la gauche ne soit pas spectatrice de la crise institutionnelle qui va s'installer, la crise politique, il faut que le courant réformiste, laïque, républicain, attaché à un certain nombre de valeurs, y compris aux valeurs de ce que représentent les grands corps de la République, puisse exister indépendamment de LFI. Moi, je ne suis pas pour la détruire, ils doivent vivre leur vie, mais il faut que... En tous les cas, moi, le courant que j'aime, il faut qu'il existe. Voilà. Parce que je pense que, par ailleurs, c'est autour de lui qu'on peut gagner majoritairement. Parce que la question qui est posée pour la gauche, c'est est-ce qu'elle veut être majoritaire ou est-ce qu'elle veut être une minorité radicale ? Mm-hmm. C'est ça le débat qu'il y a avec Jean-Luc Mélenchon.
Et avec Emmanuel Macron, Gabriel Cluzel, est-ce qu'il peut gouverner ? Comment est-ce qu'il va faire ? Il va se servir des Républicains comme force d'appoint ? Ils ne le veulent pas ? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir ?
Alors déjà, on dit beaucoup, ça va devenir ingouvernable. Moi, je ne sais pas. J'ai vu que le précédent quinquennat, l'Assemblée était uniforme. Tout le monde avait, la majorité des députés absolus avaient le petit doigt sur la couture du pantalon. Et on voit que finalement, il y a eu les gilets jaunes dans la rue, il y a eu des mouvements de rue. Vous savez, quand le législatif n'est plus un contre-pouvoir ou ne permet plus de respirer, c'est pas très bon non plus. Donc là, on peut se réjouir, et encore, parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention, donc ça, il faut pas l'oublier, on peut se réjouir que ça réinjecte quand même une forme de contre-pouvoir, de démocratie, qu'un certain nombre de gens qui auraient pu se retrouver dans la rue, peut-être se diront, nous sommes représentés à l'Assemblée. Alors, de fait, Emmanuel Macron va être obligé de composer. Alors, c'est un mot dont il a pas l'habitude, on va être très clair. Composer avec qui ? Ben, LR, c'est vrai que LR, pour le moment, ça a l'air de résister. Copé, lui, dit oui, mais tous les autres, Retailleau, Bertrand, Ciotti, sont vent debout, parce qu'évidemment, le risque, c'est la dissolution dans un grand tout. C'est le baiser de la mort. Mais en même temps, comment vont-ils garder leur position singulière ? On remarquera que ceux qui ont été bien élus, c'est ceux qui sont droits dans leurs bottes, c'est-à-dire les Wauquiez. Wauquiez, il a quand même emmené 19 députés avec lui, un tiers des députés LR, c'est Ciotti, on l'a dit, Annie Genevrard, Jean-Louis Thériault, c'est des gens assez avec une forte identité de droite, et ceux-là sont pas Macron compatibles, pas du tout.
L'entrée sur LR, force d'appoint pour le président Macron. Avec des débauchages à venir.
Tout ce discours catastrophiste d'hier en disant ça y est, le pays va être ingouvernable, on pourra pas faire passer la moindre loi. Enfin, on a vu pendant la campagne présidentielle qu'Emmanuel Macron avait repris à son compte toute une série de propositions des Républicains. La retraite à 65 ans, le nucléaire, l'autonomie des écoles, sur la sécurité, enfin j'en passe. Donc je pense que les députés LR n'auront aucun problème à voter des lois qui ont été inspirées par eux, sur lesquelles ils vont pouvoir faire leurs propositions, leurs amendements. Et donc, il y aura la possibilité de passer des lois. Et bien sûr qu'il y a du côté d'En Marche la volonté depuis hier soir de faire croire qu'on était dans le chaos, qui est une espèce de validation a posteriori du discours alarmiste d'Emmanuel Macron avant le second tour. Maintenant, donc ça c'est pour la réalité institutionnelle, le pays ne va pas être bloqué. Maintenant, il y a une réalité politique, c'est que le pays est polarisé comme jamais. Polarisé comme jamais, parce qu'on vient de voir l'Assemblée nationale, mais ça, c'est des députés élus au scrutin majoritaire. Ça veut dire que c'est pas qu'il y a 20% de NUP dans le pays et qu'il y a 20% de Front National, c'est qu'il y a des territoires où ils sont majoritaires, où ils sont implantés maintenant. Et donc, La Seine-Saint-Denis.
100% des députés NUPS.
Voilà, ou inversement, pour le Rassemblement National, des départements qui sont entièrement RN. Ça, comment est-ce qu'on va faire, dans cette fracture qui est territoriale, qui est générationnelle, comment on va recréer dans ce pays la possibilité de se parler ? Il va falloir aller aussi au-delà de l'Assemblée nationale, parce qu'on ne va pas créer des compromis entre toutes ces polarisations à l'Assemblée nationale. On trouvera sans doute entre En Marche et LR, mais ça s'arrêtera là. Une fois de plus, il va falloir passer par du référendum, trouver des sujets sur lesquels on réconcilie le pays au-delà des clivages politiques.
Attention danger avec le référendum. Un tout petit mot,
pourquoi
Julien.
Pourquoi danger? Pourquoi attention danger,
on répond rarement à la question qu'on vous pose. Voilà, vous le savez parfaitement.
Justement, si on pose un référendum comme ça, on ne répondra pas à la question posée. C'est du bonapartisme. Mais si on institue comme pratique de gouvernement aussi le référendum, on va pouvoir dépasser les clivages.
Je pardonne un instant, Julien, parce que là, c'est le rappel des titres avec Michaël Dorian et après, on en redébat.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
De retour sur Europe 1 et sur CNews avec le commissaire Lebars, avec Gilles Mintré, Gabriel Cluzel et Julien Drey. Encore un tout petit mot de la question du référendum. Est-ce que c'est la solution magique pour rapprocher les Français de la politique? 53,77% d'abstention, Julien Drey. Il faut qu'on fasse des référendums, mais on va répondre, les Français vont répondre non, quelle que soit la question posée, non?
Parce qu'on est dans un tel état de crise politique que les gens ne vont pas répondre à la question. Là, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils veulent pas, ils font pas confiance à Macron, qu'ils veulent d'un certain point de vue... lui donner une leçon. Donc à chaque fois, ça sera la même chose pour l'instant. Alors on peut penser que les mois passant, à un moment donné, le président de la République cherche un sujet qui lui permette de reconstituer une majorité autour de lui. Ça va pas être simple et c'est pas demain la veille. Maintenant, je voudrais juste corriger quelque chose. Je vous entends depuis deux jours dire mais c'est formidable sur les plateaux, parce que je vous écoute, on va aller à l'Assemblée nationale, on va faire des majorités d'idées, on verra, etc. Ça, c'est un conte pour enfants.
C'est pas comme ça. Je ne propre pas parler de majorité d'idées.
Non, mais on va faire une majorité d'idées, c'est-à-dire on va se mettre d'accord.
Non, j'ai juste dit que les LR voteraient les lois qui sont inspirées par leur propre programme. C'est évident. Oui,
voilà. Donc, de fait, et c'est ça la vérité, c'est que si Macron, dans la logique dans laquelle il est, Macron est à ce moment-là amené à passer un accord avec vous, s'il passe
c'est
un accord.
C'est pas forcément un accord. Non, mais s'il présente une loi sur la retraite de 65 ans ou sur l'autonomie des écoles qui est inspirée par LR,
ça s'appelle un accord politique. Il ne faut pas chercher
les mots. Dans la vraie vie, vous dites ?
Non, ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça veut dire simplement qu'à ce moment-là, l'ensemble, mais c'est ça qui risque de se passer, passe directement sous la tutelle politique des Républicains. Parce que, à juste titre, parce que la question qui vous est posée à vous, elle est simple, hein, c'est que derrière, il y a le Front National. Donc si vous n'existez pas en tant que tel, le Front National, hier sur les plateaux, c'était très simple d'ailleurs, il vous le disait clairement, il disait, est-ce que vous êtes la béquille d'Emmanuel Macron ou est-ce que vous venez avec nous? Donc c'est ça la question qui me pose. C'est pour ça que je crois, contrairement, là c'est là où j'ai mon désaccord, je pense qu'on est dans une crise politique, que cette Assemblée Nationale va être très 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 difficilement gouvernable. Ne serait-ce que parce que d'abord, il va y avoir des chahuts permanents, je vois pas quelle l'autorité d'un président qui sera élu, je sais pas comment, etc. C'est pour ça que là je veux bien prendre un pari, mais peut-être je vais le perdre. Je ne crois pas que la durée de vie de cette Assemblée nationale soit de 5 ans.
Alors, ce sera quoi? Quelques mois?
Quelques mois.
Mm-hmm. Maximum. Mais allez, un dernier mot là-dessus.
Juste en un mot. D'abord Gabriel, juste pour souligner que le parti qui a le mieux résisté au Rassemblement national, c'est les Républicains. Hein. Dans tous les duels, quand on regarde, les duels qu'il y a eu, les duels NUPS-RN, les duels En Marche-RN, les duels LR-RN...
Vous avez perdu 40 députés, quoi.
Non, mais, oui, je vous parle des duels.
Hier soir,
il y a eu que deux duels LR-RN qui a été perdu par les LR. Et on a gagné tous les autres. Okay. Et pour sur le référendum, c'est pas forcément à l'initiative du gouvernement. Si vous faites une convention citoyenne, ce que propose d'ailleurs Emmanuel Macron, sur ce point-là, il est assez innovant. Mais c'est ce qu'ont fait les Irlandais, c'est ce que font d'autres pays dans le monde. Vous donnez à des citoyens tirés au sort, à une assemblée constituée, de réfléchir, de travailler une question et ensuite de la mettre en référendum, ce que n'avait pas fait Emmanuel Macron avec la Convention citoyenne sur le climat, et bien là, vous sortez complètement de la logique plébiscitaire et vous pouvez reconstituer du consensus.
Celui qui maîtrisait mieux la question référendaire, c'était le général de Gaulle. Et même lui, il a fini par se planter en 69.
Non, parce que précisément, ça, c'était le référendum plébiscitaire. Je pense qu'il faut sortir. On est en 2022. Il faut qu'on arrête de rejouer en permanence 1962.
Un dernier mot, Gabriel. Après,
on ne peut pas se satisfaire de ce Parlement, de ce pouvoir législatif qui était complètement décorrélé de la réalité de l'électorat. C'était absolument impossible entre deux partis de gouvernement qui s'auto-jugeaient dans le cercle des gens raisonnables. Je te passe la balle, tu me passes la balle. À un moment, la proportionnelle qui avait été refusée a été imposée par l'électorat. Et c'est, la proportionnelle, elle existe dans tous les pays, sauf en France et au Royaume-Uni, et c'est pas des pays d'anarchie.
Mais il y a donc des majorités qui se distinguent.
Peut-être...
La 30 secondes, ouais. C'est pas le problème de la proportionnelle. Le problème, c'est de la majorité. Dans tous les pays que vous citez, il y a une majorité qui se constitue. C'est pas au jour le jour. Mmh. En Allemagne, comme en Espagne, comme en Italie, encore que l'Italie, c'est plus compliqué, il y a des au Portugal, il y a des majorités qui se constituent. Donc la proportionnelle, c'est un bon système, mais elle doit permettre de dégager. C'est d'ailleurs pour ça que les pays qui n'ont pas de règles, comme par exemple Israël, qui n'a pas la règle qui fixe des bornes, y a l'Assemblée, la Knesset, elle est très difficilement gouvernable.
Non, mais vous ne pouviez pas vous satisfaire d'une Assemblée qui était aussi... peu représentative des Français. Et en cela, ça aura la vertu au moins de rendre la vie des Français et peut-être de lutter contre l'abstention, qui est quand même le mal absolu qui règne aujourd'hui dans ce pays.
Et parce que les Français estiment, Gabriel, qu'on ne répond pas à leurs préoccupations quotidiennes, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit les questions de santé, que ce soit les questions de sécurité. On a le commissaire Lebarre sur le plateau. La sécurité et l'insécurité, c'est quelque chose que les Français vivent au quotidien. Un exemple encore à Chennevières-sur-Marne. Interpellation mouvementée pour les forces de l'ordre de plusieurs individus, dont deux étaient juchés sur le toit d'une voiture qui faisait un refus d'obtempérer. Ils sont allés se réfugier dans une cité. Résultat, interpellation très compliquée avec une quarantaine de personnes qui entourent, insultent et crachent au visage des policiers. Récit de Marie Conant, puis je vous passe la parole ensuite.
Cette femme qui hurle tente avec des dizaines d'autres riverains de stopper en pleine rue une interpellation de policiers. En réponse, l'agent la pousse violemment au sol et l'asperge de bombes lacrymogènes. Cette scène a été filmée hier soir par de nombreux habitants de Champigny-sur-Marne. C'est à quelques mètres de là que tout aurait commencé, quand une patrouille de police voit circuler une voiture à vive allure et avec deux personnes postées sur le toit. D'après les forces de l'ordre, malgré avoir manifesté leur intention de procéder à un contrôle, le véhicule suspect aurait refusé de s'arrêter. Au contraire, il aurait même accéléré pour finalement se garer un peu plus loin dans cette cité sensible. Après avoir tenté de fuir en vain, le conducteur ainsi que les deux individus posés sur le toit seraient alors devenus agressifs. Impossible de les interpeller d'après le rapport des policiers car ils se débattent, ils insultent et vont même jusqu'à cracher au visage des agents. Toujours d'après ce rapport, les suspects auraient appelé les riverains à s'en prendre aux forces de l'ordre. Au total, une quarantaine d'individus seraient venus les encercler.
Le commissaire Lebarre, c'est de plus en plus régulier. C'est une possibilité pour les policiers de procéder à des contrôles ou des arrestations.
Alors, premier point, le vrai sujet sur la sécurité, c'est celui-là. C'est la délinquance. C'est pas la police tue. Donc déjà, il a été, pour des raisons de guerre en Ukraine, d'actualité politique, il n'a finalement pas été au cœur de la campagne présidentielle. Mais j'ai presque envie de dire tant mieux, parce qu'il est tellement exacerbé et caricaturé par ceux qui s'en emparent qu'on était presque soulagés. C'est malheureusement revenu par un autre angle pendant la législative. Ça, c'est le premier point, c'est le vrai sujet de sécurité. Ensuite, deux choses. Il y a à la fois un refus d'obtempérer, on peut en reparler, refus d'obtempérer, qui fait que des individus se croient permis ou autorisés à fuir un contrôle de police, mais on voit bien même la moquerie, puisqu'après, ils se sont retrouvés assis sur le toit de la voiture. C'est limite, on vous attend. Et en fait, ça donne quoi, la suite? C'est-à-dire le quotidien qu'on a dans les quartiers difficiles. C'est vrai que c'est un peu un terme novlangue, hein, dans des banlieues dures. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Hein. En Seine-Saint-Denis, il y en a aussi à Champigny. On a ce qu'on appelle, en termes pénal, un guet-apens, en termes un peu plus triviaux, un traquenard. Le classique, vous en avez soit qui hurle et qui attire du monde, mais en général, le monde est déjà là. C'est-à-dire que vous rentrez dans leur espace, dans leur cité, c'est un territoire où les flics n'ont pas le droit de rentrer, et on s'en prend à eux, on les agresse, on les empêche d'interpeller, on les gaze, etc. Avec du gaz lacrymogène, quand ils en ont, ou parfois même on leur tire dessus. Le sujet, c'est cet angle mort-là de la sécurité, c'est ce même type d'ailleurs de population qui se permet de semer le chaos autour du Stade de France, hein, c'est-à-dire souvent des voyous, mineurs, peu importe d'ailleurs avec ou sans papier, parce que là on est dans un quartier, Champigny, que je connais, j'ai des collègues qui me racontent, c'est équivalent d'un micro-territoire Seine-Saint-Denis, c'est dur Champigny, enfin, en tout cas ce quartier-là que je ne vais pas nommer, on va pas stigmatiser, on va rester correct, mais c'est quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quotidien et c'est partout en France, c'est pas seulement Seine-Saint-Denis ou quartier nord de Marseille, on a ce type de comportement, parce qu'il y a une décadence générale, où le contrôle de police c'est pas grave, on fuit, on tente sa chance, on agresse les flics, on leur roule dessus, on fait un traquenard. Et je conclue sur le sujet du refus d'obtempérer. Quand la police ne tire pas, essaye de faire son travail autrement que par le tir, qui est en général l'ultime recours, ben moi je perçois que dans le média, à part chez vous, il n'y a quasiment rien. Il y a eu d'autres affaires ce week-end très graves.
Par exemple,
par exemple, en province, dans l'Hérault, il y a des gendarmes qui ont fait face à un refus d'obtempérer sur un fou de la route qui a fait 2 morts, 3 blessés graves en roulant à contresens sur l'autoroute. Où sont les discours de la NUPES sur la police qui tire ou qui tue? Il y a un autre refus d'obtempérer à Paris 18, 3 policiers au tapis qui se sont fait quasiment rouler dessus dans une petite rue, délit, auteur du délit en fuite. Où sont les commentaires politiques? Donc cette affaire-là, et là celle-ci au pluriel, n'intéresse pas personne, mais n'intéresse pas. alors que c'est le quotidien et que c'est les policiers qui font face à ça et c'est eux qui sont les victimes. C'est pas certaines affaires dans lesquelles il y a l'ouverture du feu et où on s'affranchit de ce que va faire la justice et tout le monde fait son procès dans les réseaux sociaux en condamnant la police. Tout le monde, c'est cette frange de l'extrême gauche qui affaiblit la police dans son action quotidienne.
Julien Drey, Jean-Luc Mélenchon, il surfe sur ce ressentiment d'une partie, toute petite partie de la population contre les forces de l'ordre où il alimente le feu, en disant la police tue.
Je ne sais pas s'il alimente, il surfe. La question qui est posée quand même maintenant, parce que c'est ça le vrai débat, c'est comment on casse cette délinquance. Parce que la vraie question, ce n'est pas qu'on en discute, c'est comment on trouve maintenant des moyens pour la casser. Il y a des aspects pénaux, c'est-à-dire des sanctions, mais il y a aussi un aspect formation des policiers et présence massive. Parce que dans ce type de situation, le problème qui est posé, c'est qu'on a 2, 4, 5, 6 policiers. Le temps qu'ils alertent, tout le reste se constitue, parce qu'ils ont compris. Le traquenard, c'est celui-là. C'est qu'on attire la voiture avec 2, 3 policiers. Il y a des gens qui attendent, qui se téléphonent, etc. Mm-hmm. Et c'est bon. Donc il y a tout un... Il y a une augmentation massive de cette... Alors on l'appelait à un moment donné police de proximité, mais ça donnait le sentiment que c'était des justes pour faire ça. Il y a une redistribution des forces de police expérimentées pour empêcher ça, pour le casser. C'est ça le vrai débat. Ça va demander des moyens humains et des moyens de formation considérables, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et c'est vrai qu'il y a une exaspération légitime de tous nos concitoyens qui disent « mais on n'en peut plus ».
Mais voilà. Comment on fait avec une assemblée comme ça avec
À l'assemblée, c'est ce que j'ai dit.
Non mais sur les textes, sur la sécurité tout simplement. On fait comment ?
Il faut essayer de trouver ce consensus politique. Non, mais je veux dire, le problème, c'est que c'est ça qui, si vous voulez, a manqué. Il faut que ce débat il ait lieu sur comment on casse cette délinquance qui s'est installée. Alors, avec des multiples aspects, comment on casse le trafic de stupéfiants en s'en donnant une bonne fois les moyens ? Comment on fait que les sanctions soient appliquées ? Comment on fait que les mineurs ne restent pas dans des cités en devenant des leaders parce qu'ils ont un casier judiciaire tellement important qu'ils sont... Donc, à un moment donné, on avait mis des établissements fermés. Il y en a très peu, finalement, qui ont été construits. On a des jeunes dont on voit... D'ailleurs, on peut servir des exemples. Les Canadiens, ils ont un système qui est très simple. Dès qu'il y a un jeune qui fait un écart, ils mettent le paquet sur ce jeune-là. Mais ils le sortent du milieu. C'est ce qu'on appelait les internats éducatifs fermés, pour pas qu'ils deviennent, pour pas qu'ils s'installent dans cette délinquance. Donc, vous voyez, c'est tout ce système-là qu'il faut reconstruire. Et là, il y a un débat politique, et il faut essayer, effectivement, à partir de là, d'arriver à construire, non pas un consensus politique, mais en tous les cas, une majorité politique qui comprenne ça.
Vous voulez réagir, commissaire, et après, je passe la parole.
Oui, parce que je rejoins Julien Drey. C'est comment on fait pour casser tout ça? Donc, ça, c'est la question à laquelle, d'ailleurs, personne n'a répondu pendant la campagne ou les campagnes. Moi, il y a une certitude en tant que policier. J'ai vu 30 ou 40 dispositifs quasiment toujours sur le dos de la police, testé. Alors, c'est des acronymes, hein. ZSP, zone de sécurité prioritaire, QRR, quartier de reconquête républicaine. Je vous passe les autres, des acronymes, il y en a tellement, les gens ne savent même pas ce que c'est. À chaque fois, c'est souvent, au départ, du travail collectif, très rapidement après, la police sur le terrain un peu plus nombreuse, puis très rapidement après, l'essoufflement. Ça ne marche plus. Ça ne marche pas, parce qu'il y a le mineur délinquant, il y a la chaîne pénale qui est défaillante, il n'y a pas les éducateurs en amont, on prend toute la délinquance une fois qu'elle est trop tard et qu'elle a gonflé, la justice n'est pas passée, c'est foutu. Donc le mineur délinquant, c'est l'angle absolu, l'angle mort absolu de la politique pénale. Et puis les exemples, enfin je veux dire, la peine, le terme de peine, c'est punir. Il ne faut pas avoir peur de punir. Pour punir, il faut les moyens. Et je vois trop, en tant que policier, je parle au nom de mes collègues, des mineurs ou des jeunes majeurs qui n'ont jamais été punis. Et on en a parlé des milliers de fois sur votre plateau, avec des centaines de faits au compteur. C'est trop tard, c'est fini. Après, ils ont dans la tête que ça peut continuer. Finalement, la vie se déroule.
Et donc, Gabriel Cluzel, comment on fait, encore une fois, avec une Assemblée nationale où il y a 71 députés France Insoumise, 26 au PS, 23 Europe Écologie Les Verts, pour faire passer des textes un peu...
Déjà, sans même faire passer des textes, en l'état, s'il y avait une volonté politique et s'il y avait notamment une résistance à la grosse caisse médiatique à chaque fois qu'il y a la victimisation d'un délinquant, si notre gouvernement disait « écoutez, être délinquant, malheureusement, ça comporte des risques et les policiers ont fait leur devoir », eh bien, ça permettrait d'éviter ce sentiment d'impunité qui habite les délinquants. Évidemment, ils ne vivent pas dans une cave ni dans une capsule sur la Lune, ils le voient, toute cette façon que l'on a de toute cette présomption de culpabilité qui repose sur la police. Moi, tous les policiers, les gendarmes que j'interroge me disent c'est pas la peine, on voit des politiques qui disent faut envoyer l'armée, en l'état actuel, c'est pas la peine d'envoyer l'armée. Hein. C'est la police et les gendarmes peuvent encore maîtriser la situation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Et je pense que même sur le plan législatif, évidemment qu'on pourrait améliorer, notamment le fait que la parole d'un policier, moi ça me choque beaucoup, formé, sélectionné, assermenté, vaille autant, pèse autant que la parole d'un délinquant. C'est quelque chose d'assez aberrant. Bon, mais ça, on pourrait l'améliorer. Mais sur le plan législatif, en le gravant dans le marbre, mais même en l'état, s'il y avait une véritable volonté politique, c'est même plus que de la volonté, c'est du courage à ce stade, eh bien, on pourrait le contrer. Mais c'est vrai que avec NUPES à l'Assemblée, qui montre clairement quel parti elle a pris. Hein. Moi, je trouve qu'on n'analyse pas assez géographiquement l'emplacement, enfin les territoires qui ont été gagnés par NUPES, avec des scores soviétiques. Hein, il faut voir.
Oui. Mais un taux de participation très faible. Hein. On est à 23-24% dans ces zones-là.
Mais néanmoins, on est bien obligé de prendre, de prendre la situation telle qu'elle est. Et il y a aujourd'hui un phénomène de Seine-Saint-Denisation de la société. Vous l'avez dit, je crois, c'est que ce qui se passe en Saint-Denis, ça arrive ailleurs, et c'est normal. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a aussi à avoir un discours très ferme sur l'immigration que l'on n'a pas, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Et tout cela, je crois qu'au-delà de nouvelles lois, il y a d'abord la volonté d'appliquer ce qui est déjà en place.
Gilles Maintré ?
Non, mais pour répondre à votre question, comment on passe des lois à l'Assemblée nationale ?
Avec une assemblée comme ça.
La droite avait fait des propositions très fortes sur le sujet. Là, on vient de voir les fameux refus d'obtempérer. La droite a proposé qu'il y ait un an minimum si on s'en prend à un policier, de la même façon que si on s'en prend à un enseignant ou à un élu. Mais voilà, si Emmanuel Macron propose cette mesure demain, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour trouver la majorité pour la voter. D'accord. Encore faut-il le faire. Parce que ce refus d'obtempérer, d'ailleurs le mot, on a l'impression que c'est très soft, le refus d'obtempérer, c'est comme si on pouvait décider d'accepter ou de refuser d'obtempérer. C'est une violation de la loi. C'est quand même extraordinaire. Toutes les semaines, on voit que maintenant, finalement, on a... Quand on est arrêté par un policier, c'est comme si on avait le choix, on réfléchit, il n'y a pas à réfléchir. Enfin, donc là-dessus, il y a des mesures très fortes à prendre.
Mais le problème, ce n'est pas un problème de loi, si vous me permettez. Des lois, je dirais même, le vote de ces lois, c'est, d'un certain point de vue, un aveu d'impuissance. C'est-à-dire, on essaye de rassurer l'opinion publique en disant « Ah ben, j'ai voté une loi qui est encore plus dure que la précédente. » Voilà, ça, je peux vous
faire... La surenchère des
voilà, lois. Voilà, c'est la surenchère. Alors, des textes, il y en a comme ça, maintenant. Hein. Et si vous les appliquez, alors, ils seraient... Mais le problème, c'est comment les choses se passent. C'est-à-dire, quel est le dispositif que vous mettez en place. Les policiers, quand ils sont quatre dans une voiture, et qu'ils mettent pour pouvoir intervenir dans un quartier où ils savent, une fois sur deux, que c'est un traquenard, s'ils n'ont pas derrière une force qui peut intervenir à toute vitesse, et si ceux qui font le traquenard ne savent pas que ça va arriver, qu'après on va tourner dans la cité, on va aller chercher ceux qu'on a repérés grâce au système de vidéosurveillance et on va sanctionner, ils ne peuvent pas s'en sortir.
Commissaire Lebars.
Oui, je voudrais réagir sur deux points. J'ai perdu le fil, mais sur le fait d'être accompagné. Deux réponses. C'est la loi, c'est très bien, mais la peine de un an, comme vous dites, si c'est un an, le tarif, est-ce que c'est pertinent ou pas, ça c'est au législateur. Mais ensuite, c'est l'application. Les peines d'un an, moi j'en ai quasiment jamais vu qu'ils vont les exécuter. Donc, en fait, c'est pas le problème de savoir s'il y a la peine qui est appliquée ou qui va être notifiée, c'est de savoir si c'est exécuté. On en revient à la vitesse de la justice quand ça commence à 14 ans, parce qu'on parle de gens qui commencent à 14 ans. Maintenant, moi, j'ai même des histoires de mineurs. On les met à 11-12 ans dans la rue pour empêcher la police d'intervenir. Sur les plus âgés, ils servent de barrage. C'est-à-dire qu'il y en a du 11-12 ans la nuit pendant les violences urbaines. Vous imaginez bien, quand vous êtes policier normalement constitué, vous chargez pas là-dedans quand bien même vous êtes en mesure de le faire, parce qu'il y a du minot. 11-12 ans. Donc là, ça pose la question des parents et de l'irresponsabilité totale dans certains quartiers. C'est pas une règle, mais c'est nouveau, ça a baissé l'âge. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est de nous laisser faire notre travail. Quand on parle de multi-réitérants, c'est la démonstration que la police fait son travail, parce que s'ils ont 50, 100 faits au compteur, c'est qu'on les a interpellés 100 fois. Par contre, s'ils sont toujours dehors, c'est que c'est pas de notre faute, c'est que la justice n'a pas les moyens de les mettre là où il faut les mettre, soit en centre éducatif. Julien Drey a parlé des centres éducatifs fermés. En plus, ils sont pas fermés, la réalité. Ouais. C'est que s'ils veulent en sortir, c'est pas contraignant, ils peuvent en sortir. Donc moi, j'en connais plein, on les a mis en centre éducatif. Ils ont même été téléportés à l'autre bout de la France. Le lendemain, ils étaient revenus. Donc tant qu'on n'aura pas ces moyens-là, on continuera à se plaindre des multi-réitérants.
Et donc une Assemblée nationale avec la France insoumise très haute, avec les écologistes, une partie du Parti socialiste, ça vous fait peur ?
Et moi, en tant que policier, veut les outils peur. Pour faire notre travail. En général, on n'a pas trop peur. C'est vrai qu'on est habitué à gérer la peur. Et c'est pas malsain d'avoir peur. J'ai eu peur dans ma carrière, j'ai pas honte de ça. C'est pas politiquement qu'on va avoir peur. J'aurais peur quand jour.
Quand il y a 71 députés qui pensent que la police tue.
Mais ils vont pas se gêner à le redire. De toute façon, on nous a habitués à ce discours-là.
C'est un peu plus compliqué parce que c'est là qu'il faut voir les différences qui existent. Vous écoutez Adrien Quatennens, vous verrez qu'il ne tient pas exactement le même discours que Madame Obono. et que, y compris par rapport à la police, il est lui-même, étant élu dans un territoire difficile, confronté à ce genre de situation. Et parce que dans ces quartiers, il y a les voyous, puis il y a toute une partie de la population qui en peut plus, qui est pas venue voter, mais qui attend qu'on vienne la sauver de cela, qu'on vienne la délivrer. Et c'est à ces gens-là qu'il faut donner confiance pour qu'ils puissent justement éviter les dérapages.
Mais alors, moi, je sens que les gens qui sont à la NUPES avec des nuances, etc., le fait est que, néanmoins, ça ne les gêne pas de s'allier avec des personnalités qui disent que la police tue et qui développe perpétuellement cette rhétorique anti-police. Donc, on ne peut pas être à la fois défendre la police et être à la NUPES. On ne peut pas tenir un double discours.
Ce qu'il faut, c'est que le courant...
Ça me paraît quand même assez...
Il y avait dans la gauche un courant républicain qui, sur ces questions-là, avait beaucoup progressé, qui notamment, je me rappelle du débat sur le thème punir, parce que ça a été un débat. Est-ce qu'on l'emploie ou non? Il y avait une prudence, etc. Moi, je fais partie de ceux qui disaient que le terme punir, il fait partie de la dispositif. Il faut, si on avait peur de punir, à ce moment-là, on ne pouvait pas maintenir l'ordre. Bon, il faut que ce courant-là reprenne le dessus.
Le courant au sein de la gauche.
Au sein de la gauche.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et Christine Kelly vous attend pour Face à l'info avec ses invités. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1.
Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Bruno Jeudy est là de Paris Match. Bonsoir mon cher Bruno.
Bonsoir Laurence.
Alexandre Chevaud d'Europe 1, du service politique. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Laurence.
Et Gilles Maintré, essayiste, président d'Electis. Bonsoir Gilles. Bonsoir, merci d'être resté avec nous. Vous étiez déjà là en première heure. Allez, les législatives, mode d'emploi, avec ces duels, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Et puis finalement, c'est plutôt un duel Marine Le Pen, Emmanuel Macron, qui est sorti des urnes hier. On va écouter l'ex-patronne du Rassemblement National, qui a d'ailleurs annoncé qu'elle ne reprendrait pas la tête du mouvement, se féliciter de son très bon score, 89 députés. RN va entrer à l'Assemblée.
Est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir faire ce qu'il veut? Non, la réponse est non. Clairement, ce matin, c'est non. Et tant mieux, c'est-à-dire la retraite à 65 ans, je pense que c'est une réforme enterrée, ainsi que toute une série d'autres mesures que souhaitait mettre en place Emmanuel Macron et qui, en réalité, étaient toxiques pour les Français. Donc à toutes ces mesures-là, nous allons bien sûr nous opposer et il devra faire avec, parce que c'est la volonté du peuple français. Je rappelle que l'Assemblée nationale est la maison du peuple français. Il s'y est réinvité hier soir, et il s'y est réinvité de la plus belle des façons, je le pense, en déjouant tous les pronostics. Et bien entendu, l'ensemble des députés du Rassemblement National seront à disposition du peuple français pour pouvoir mener cette opposition qui sera extrêmement ferme, mais également constructive.
Bruno Jeudy, est-ce que, encore une fois, Marine Le Pen, elle a raison de se féliciter de son succès, 89 députés, c'est absolument considérable et historique pour son mouvement, elle installe le match avec Emmanuel Macron, alors que Jean-Luc Mélenchon essaye aussi de l'installer?
Je ne sais pas si ça se pose dans ces termes-là désormais, parce que au fond, c'est vrai, Marine Le Pen réalise la grosse percée historique, d'ailleurs, sous la cinquième, c'est trois fois plus que son père en 1986, et c'était avec un mode de scrutin à la proportionnelle, donc là, elle fait éclater le plafond de verre, enfin bon, voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'elle a ses 89 députés à l'Assemblée nationale, maintenant, elle... Le match ne sera pas d'abord en direct avec Emmanuel Macron, ça c'est le premier point. Deuxième point, elle n'est pas la seule dans l'hémicycle. Il y a aussi alors la NUPES, certes, ils sont éclatés en trois ou quatre groupes et Jean-Luc Mélenchon aura moins de députés que
le Rassemblement National.
Le Rassemblement National. Et puis si on regarde fonctionnellement, c'est le groupe le moins fort de ces oppositions qui va le plus compter probablement. C'est plutôt les LR qui sont moins nombreux qu'avant dimanche, mais qui sont plus forts paradoxalement après dimanche. Donc on a une assemblée qui ressemble quand même à un saut vers l'inconnu, comme l'a écrit ce matin Alexis Brézet du Figaro, et c'est pas galvaudé pour le coup. Je crois en revanche que pour Marine Le Pen, il y a aussi quelque part pour elle un changement de statut qui implique que maintenant le Rassemblement National ne va plus seulement être une dizaine ou huit députés qui vont brailler en haut de l'hémicycle à droite. Ils vont prendre des responsabilités parce que par le jeu des institutions, ils vont avoir probablement une vice-présidence de l'Assemblée, peut-être d'autres postes. Donc ils vont avoir aussi à faire leurs preuves et montrer que ce parti se structure, s'organise, éventuellement...
Se crédibilise, tout simplement.
Oui, progresse, tout simplement, parce que jusqu'à présent, le RN, c'était Marine Le Pen et une ou deux autres personnes. Donc, c'est ça aussi. Donc, pour le coup, elle a aussi quelque part
beaucoup de choses à démontrer, Marine Le Pen.
Absolument. C'est peut-être pour ça, Alexandre Chauveau, qu'elle se consacrera à son groupe parlementaire, d'ailleurs.
Oui, celle qui
reprendra pas le RN.
Sans surprise, absolument. Et non, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement un gros enjeu de crédibilité. Et d'ailleurs, hier soir, Jordan Bardella a tout de suite dit... nous, on ne sera pas dans une, bah, pas dans une, enfin, ils seront dans l'opposition, bien évidemment, mais on ne sera pas dans le blocage. On respectera les institutions avec cette volonté de se distinguer de la NUP dont tout le monde craint, enfin tout le monde, en tout cas la majorité craint les ce qu'ils vont faire à l'Assemblée. Il y a un vrai enjeu de crédibilité à ce niveau-là. Et puis après, sur la victoire, il y a toute l'implantation locale de Marine Le Pen. Là, ça fait des années qu'elle réclamait la proportionnelle. Maintenant, elle arrive en force à l'Assemblée et de manière locale, il y a plusieurs départements où ils font un carton plein en termes de circonscription, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, la Haute-Marne, la Haute-Saône. Il y a vraiment une implantation territoriale qui est en train de se faire. On pensait que pendant ce second tour, ils n'auraient pas de réserve de voix. Finalement, ils ont remporté 56% de leur duel face à la NUP, 57% face à Ensemble. Mm-hmm. Donc, il y a eu une sorte de front anti-Macron plutôt que le front républicain qui s'est mis en place.
Absolument. Elle a fait exploser le front républicain, Gilles Matré.
Oui, c'est indéniable, effectivement, le résultat est historique. Maintenant, je suis tout à fait d'accord, ça va se jouer sans elle, la prochaine mandature, parce qu'elle a beau avoir 89 députés, dans le système parlementaire, c'est pas avec elle que se noueront les discussions pour faire passer des lois. Mmh. C'est un saut dans l'inconnu. Enfin, l'inconnu, c'est pas forcément négatif. La constitution de la Ve République est incroyablement plastique. On a vu des cohabitations alors qu'on pensait que c'était impossible. Maintenant, on voit ce qu'est un groupe minoritaire. D'ailleurs, Marine Le Pen prend le plus mauvais exemple qui soit. Elle dit « impossible de faire passer à la retraite à 65 ans dans ce contexte-là ». Bah, s'il y a sans doute un terrain sur lequel
les LR pourraient voter,
les LR pourraient se mettre d'accord, c'est précisément la retraite à 65 ans qui était dans les programmes.
Faudrait-il que Emmanuel Macron soit plus clair qu'il ne l'a été depuis le deuxième tour. Et surtout, par rapport à ce que vous dites, il faudrait surtout que... Parce que ici, il y a une grande plasticité de la 5e, vous avez raison. Oui. Mais Emmanuel Macron, par rapport à l'hypothèse de faire des compromis, pour l'instant, on n'a pas eu l'impression que c'était sa force.
Absolument. Alors, il avait promis au soir du second tour de la présidentielle une nouvelle façon de gouverner. Donc là, en fait, les élections lui ont imposé malgré lui, il va falloir trouver une nouvelle façon de gouverner, il va falloir travailler les textes avec des oppositions en amont, ce qu'on n'a effectivement jamais fait dans la Ve République, pour arriver sur des textes qui pourront être votés. Mais dans le fond, souvenez-vous, les grandes lois de la Troisième République, qui sont toujours en vigueur aujourd'hui.
On ne s'en souvient pas tellement, mais oui, si, on s'en souvient. Rafraîchissez-nous la mémoire.
Mais si, la loi de 1901, la loi de 1905, la loi sur la laïcité, la loi sur les associations, la loi sur la liberté d'expression, toutes les grandes lois qui structurent encore aujourd'hui notre débat et nos libertés publiques, ont été votés dans des conditions justement de discussion entre groupes parlementaires. Ça a pris extrêmement longtemps, parfois 2 ans, parfois 3 ans pour passer un texte. Mais la réalité, c'est qu'ils sont encore là aujourd'hui. Alors que des lois qui ont été votées par des députés godillots, eh ben elles ont été balayées à la législature suivante. Donc peut-être qu'on va découvrir une autre façon de faire du travail parlementaire, et peut-être pour le mieux.
Bruno Jeudi, nouvelle façon de gouverner pour Emmanuel Macron, il en est capable ?
Je suis loin d'être aussi optimiste que Gilles, parce que j'ai beaucoup vu le travail parlementaire de près. Il y a le fait majoritaire dans notre pays. Les hommes politiques, d'ailleurs, s'y sont finalement pliés, habitués. Emmanuel Macron lui-même, qui était nouveau en 2017, alors il s'est fondu à vitesse grand V dans ce système, qui fait que l'Assemblée a sans doute été... les Républicains disent toujours que, en gros, ils ont voté 50% des textes lors de la mandature précédente.
40%.
Ouais. Mais que seulement 2% de leurs amendements ont été acceptés. Donc, on voit bien la marge de progression que ça nécessite. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était un pouvoir qui fonctionnait seul. Et c'est vrai, les élections législatives de 2017 avaient offert à Emmanuel Macron une majorité avec ses seuls marcheurs. Donc il n'avait pas besoin de s'en soucier. C'est le mode de fonctionnement qui a prévalu depuis 1988, la dernière majorité relative qui existe dans le pays. La différence, c'est que maintenant, le 49-3, pour faire simple, le vote bloqué, ça ne marche qu'une seule fois par session. Que par ailleurs l'exécutif a pris des mauvaises habitudes et je rappelle que Emmanuel Macron a été réélu, donc il va vraiment falloir changer les habitudes. Bon, voilà, c'est un saut dans l'inconnu. Je ne sais pas si ça fonctionne.
Allez, on fait un petit saut après la pub. On se retrouvera, on parlera de la commission des finances. On parle beaucoup de ce poste de président de la commission des finances qui doit revenir à l'opposition. Selon le règlement. Mais quelle opposition ? On va écouter Éric Woerth, qui est passé du côté de la majorité présidentielle, qui dit que ça pourrait ne pas être le Rassemblement national. A tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec Bruno Jeudy de Paris Match, Alexandre Chauveau d'Europe 1 et Gilles Mintré, président d'Electis. On va parler de cette présidence de la Commission des Finances qui est au cœur de tous les débats, toutes les discussions à l'Assemblée. Pour Éric Woerth, qui a occupé ce poste jusqu'à présent, ancien LR, il est désormais du côté d'Emmanuel Macron, la majorité présidentielle pourrait cette fois prendre part au vote, contrairement à la tradition, pour donner cette commission au LR et non au Rassemblement National ou encore moins à la NUPES. Écoutez Éric Woerth.
Évidemment, la présidence va à un député issu d'un groupe de l'opposition. On ne dit pas d'ailleurs si c'est le groupe le plus puissant, on ne donne pas les modalités. En réalité, il n'y a pas d'usage. Pour l'instant, je pense que la majorité, en tout cas en 2017, elle ne l'a pas fait. La question se pose à partir du moment où des députés issus de partis républicains, puisqu'ils sont dans le champ de la République, mais qui prônent des mesures extrémistes, c'est le cas de la gauche avec LFI, c'est le cas du Rassemblement National avec l'extrême droite, la question peut se poser.
Alexandre Chauveau, on pourrait changer la tradition qui veut que ce soit l'opposition qui est cette présidence de la Commission des Finances, mais non, on choisirait l'opposition pour le coup.
Oui, c'est un petit peu particulier, hein, si on se met à la place du Rassemblement National. Alors, pendant l'entre-deux-tours, beaucoup imaginaient que cette commission des finances reviendrait à la NUP. Finalement, ça revient au Rassemblement National, mais c'est le même sujet pour la majorité. On a le sentiment que, voilà, qu'ils ne veulent pas respecter les traditions et ça alimenterait l'idée comme quoi il y aurait un complot. On ne voit pas pourquoi le RN qui entre à l'Assemblée ou la NUP qui entre à l'Assemblée n'obtiendrait pas les mêmes droits que leurs prédécesseurs ont eu. On voit que c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon essaye de former un groupe, a essayé en tout cas de former un...
On va en parler dans un instant, oui.
Mais c'est justement pour récupérer cette Commission nationale des finances. On a du mal à voir pourquoi, au nom de quoi en tout cas, il ne l'aurait pas.
Gilles Mintré, c'est un tour de passe-passe ça ou pas?
Tour de passe-passe, c'est une tradition qui est très récente. Hein. Il faut rappeler que c'est Nicolas Sarkozy qui avait introduit ça. On est dans une configuration qui est totalement inédite. Il faut quand même rappeler que le Rassemblement National s'est toujours illustré, alors peu à l'Assemblée nationale, il y avait peu de députés, mais au Parlement européen, ils en ont beaucoup plus, par un très faible travail parlementaire et législatif, hein, comme le montre d'ailleurs en termes de dépôts, d'amendements, de présence. Donc voilà, peut-être qu'il y a matière à réflexion en tout cas.
Bruno Jeudy, est-ce que c'est magouille et compagnie?
C'est-à-dire qu'ils essaient de jouer avec les procédures, de voir s'il n'y a pas dans le règlement moyen de s'épargner un élu du Rassemblement National à la tête de la Commission des Finances. Il faut rappeler quand même que c'est une position majeure dans nos institutions qui permet d'accéder à un certain nombre d'informations importantes que lui seul détient, c'est-à-dire le président de la Commission des Finances à l'Assemblée.
Lesquelles? Quel type d'informations?
Fiscal, tout ce qui relève du secret fiscal, des informations qui relèvent aussi des comptes de la nation à Bercy, un certain nombre de transactions. Donc voilà, bon, c'est un poste très important, comme celui de son homologue au Sénat. Donc sans doute que le pouvoir essaie d'empêcher le Rassemblement National.
Pour quelle raison?
C'est difficile à expliquer à ce stade. De toute façon, ils sont pris de court. Ils n'ont même pas envisagé, jusqu'à ces dernières heures, ils n'avaient pas envisagé la majorité relative. Donc c'est un pouvoir qui est pris de court et qui, sur beaucoup de, on voit bien, ne s'est pas préparé. Enfin, je trouve même que c'est étonnant que le président de la République ne se soit pas encore exprimé à cette heure-là.
Il va le faire, vous pensez, dans les prochains
probablement.
Jours?
De toute façon, il est obligé de le faire avant de partir à Bruxelles, puisqu'ensuite il enchaîne une séquence internationale qui va le tenir éloigné de la France plusieurs jours, puisqu'il enchaîne sommet européen, G7, sommet OTAN. Donc il doit s'exprimer avant de partir. Il s'en va mercredi ou lundi. Il pourrait ne pas y avoir de conseil des ministres cette semaine. Donc on voit quand même qu'ils sont pris de court sur bien des plans. Et cette affaire de la présidence de la Commission des Finances est aussi un des éléments où on voit on fait un petit peu de la procédure, on regarde le règlement, si on peut arriver à s'arranger.
Ça en dit long quand même, Gilles Mintré, le fait que le pouvoir en place n'ait pas anticipé une éventuelle défaite, semi-défaite, certes, mais quand même, ça en dit long sur leur incapacité à voir la réalité des choses.
Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est quand même un parti qui s'est entièrement construit autour d'une personne, hein. C'est-à-dire, c'est En Marche, hein, souvenez-vous, c'est les initiales même d'Emmanuel Macron, donc jusqu'à présent, c'était le capitaine qui fixait le cap, c'est un parti qui a toujours suivi le cap fixé par le capitaine, et là, c'est vrai que le capitaine a fixé un cap qui a pris tout le monde de court, entre les deux tours, ne jouant pas du tout sur son élan, ne jouant même pas d'ailleurs sur la réalité de ce qu'a été son élection. Hein. Il a été élu quand même par des voix qui venaient surtout de la droite. Et tout le monde s'attendait même qu'au lendemain de l'élection, il fasse une OPA sur la droite, peut-être qu'on disait qu'il allait recréer un parti, peut-être qu'il allait créer quelque chose qui aurait pu accueillir des gens qui venaient de la droite. Bon, il n'a pas du tout fait ça, il est parti sur sa gauche. Bon, et donc c'est vrai que tout ce parti se réveille aujourd'hui en se disant « mais bon, bah, le capitaine s'est peut-être trompé, mais qu'est-ce qu'on fait ?»
Alexandre Chevreau, est-ce qu'Elisabeth Borne est menacée ? Est-ce qu'il va falloir changer la Première ministre à la faveur du remaniement ?
À ce stade, on nous dit que non. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est fragilisée. Hier, elle a gagné, mais quand même de justesse pour une première ministre dans une circonscription assez facile. On voit, sans lui faire offense, clairement qu'elle n'a pas l'épaisseur politique pour diriger cette assemblée qui va être très difficile à diriger.
Mais à digérer pour eux aussi.
Ouais, sur Emmanuel Macron, on lit, on entend beaucoup qu'il y a une forme d'essoufflement, il n'y a plus la vista de 2017, il n'y a plus la volonté de disruption, qu'il y a une certaine forme de panne d'idées. Il y a plusieurs critiques qui sont émises à l'égard du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui concentrerait trop le pouvoir, qui déciderait trop des choses avec Emmanuel Macron. Son entourage est aussi fragilisé. Richard Ferrand a perdu, Christophe Castaner a perdu hier. Donc il y a une, je veux pas dire une ambiance de fin de règne, mais il y a vraiment, je pense, pour une des premières fois, il cogite très sérieusement.
Bon, jeudi, il y a un problème, Elisabeth Borne ou pas ?
Je ne sais pas s'il y a un problème, Elisabeth Borne. Je pense que pour l'instant, c'est surtout Emmanuel Macron qui a pris la raclée hier. C'est pas, les gens n'ont pas voté contre Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, effectivement. Il y a deux chiffres qui sont assez surprenants. 74% des Français souhaitaient une femme à Matignon à la veille de sa nomination. Demain, on fera paraître le tableau de bord IFOP de l'action de l'exécutif et elle chute de 7 points. Donc on voit donc, à quel point en 36 jours, ouais. En 36 jours, comment ce pouvoir tout neuf, réélu, s'est délité. Alors je pense qu'Elisabeth Borne a péché par une trop grande discrétion, des prises de parole au mieux sans impact, au pire fébrile. On se souvient de sa prise de parole le soir du premier tour qui n'allait pas du tout. Après, elle a fait campagne. Elle a été beaucoup dans le Calvados. Moi, je l'ai suivie. Effectivement, elle s'est beaucoup impliquée parce qu'elle a vite compris que ça allait être difficile. Et elle a eu raison de faire campagne parce qu'il y en a quand même pas mal de copains qui sont au tapis et pas des moindres. Alexandre en parlait à l'instant. Elle n'est pas très très bien élue, mais elle est élue. Il y en a quand même pas mal qui n'ont pas été élus. Après, c'est vrai que dans le casting, c'est une femme de dossier qui sait faire avancer les dossiers. Elle l'a montré dans le quinquennat précédent.
C'est une femme de gauche quand même, Bruno.
Une femme issue de la gauche, oui, mais enfin qui a réalisé les deux réformes de droite d'Emmanuel Macron, l'assurance chômage et l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Donc bon, on peut dire quand même que sa gauche est quand même très raisonnable. Et je pense que le problème, c'est que là où il y a problème de casting, c'est qu'on attend plutôt maintenant quelqu'un qui a de l'expérience politique et qui soit capable de trouver les compromis, les majorités d'action, puisque c'est le terme qu'elle emploie et qu'on emploie. À l'Élysée, j'ai eu contact avec elle et elle s'emploie à trouver ses majorités d'action. Elle n'a pas forcément c'est pas forcément le bon CV peut-être pour ce boulot. Michel Rocard a pu le faire en son temps avec une majorité relative qui était un peu moins compliquée. Là, il va vraiment falloir avoir un sacré entre-gens pour convaincre les élus divers, les gens de gauche raisonnables, les gens de droite un peu Macron compatibles pour former ces fameuses majorités d'action. Peut-être qu'elle se révélera là-dessus, mais en tous les cas, je pense que Emmanuel Macron, pour l'instant, a décidé de ne pas reconsidérer son choix et de maintenir Elisabeth Borne.
Gilles Maintré.
Je pense que paradoxalement, Elisabeth Borne aurait été une bonne première ministre pour 2017 dans la configuration d'un parti prêt à tout voter et que finalement, c'était Édouard Philippe qui aurait été un meilleur premier ministre pour 2022. Voilà. Alors, à la fois pour la capacité de l'un. Et on sait qu'il avait plutôt été très bien perçu, vous savez, dans l'hémicycle, au moment du Covid, il avait fait des discours, en insistant d'ailleurs qu'il n'avait pas besoin de recueillir la queue du Parlement, mais il l'avait quand même fait, donc cette pratique parlementaire. Et puis la réalité qui est qu'aujourd'hui, quand on regarde l'Assemblée, Je veux dire, c'est les seules lois qui passeront sont des lois qui seront votées par En Marche et par LR. Donc, il faut bien que le Premier ministre reflète ça. Donc, on sent qu'elle va être en porte-à-faux.
Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, on vient de l'apprendre, va recevoir dès demain tous les chefs de parti, les uns après les autres, sans doute pour les sonder sur telle ou telle réforme. Alexandre Chauveau, c'est la tradition, mais là, il le fait parce qu'il a besoin de trouver ses majorités. Hein.
Oui, on voit que c'est presque une...
Une obligation.
Une crise institutionnelle. Enfin,
crise de régime. Voilà.
Crise de régime. Je ne sais pas ce que... Enfin, en tout cas, Emmanuel Macron, depuis hier soir, n'a pas pris la parole. Enfin, Bruno le disait, on attendait qu'il apparaisse dans le champ politique. Demain, le Conseil des ministres est annulé. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il cherche une porte de sortie, une solution. Il va devoir sans doute rompre avec cette forme de verticalité, ce jupitérianisme... Dont il faisait preuve et il va devoir adopter la culture du compromis qui est vraiment l'antithèse de ce qu'il a montré pendant 5 ans.
Je vais rajouter en une phrase qu'il devait lancer mercredi le Conseil national de la refondation et qu'on a appris que c'était annulé. Oui. Donc il est effectivement complètement pris de court.
Parce que Gérard Larcher a dit qu'ils y participaient, les LR n'y participaient pas.
Oui, mais parce que simplement, en fait, il était dans une toute autre arithmétique et là, il faut qu'il repense.
On va faire une toute petite pause. On s'intéressera au cas de Jean-Luc Mélenchon, qui a tenté le coup du groupe uni à l'Assemblée nationale, fin de non-recevoir du côté du PS, du PC et des Verts. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudy de Paris Match, Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et Gilles Maitry. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Il tentait en début d'après-midi l'idée d'un bloc uni à l'Assemblée nationale, évidemment pour faire contrepoids au parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national. Écoutez sa proposition, refusée.
Mais je crois que nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Et que, dès lors, nous soyons prêts, à tout moment, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de la NUP. Chacun peut faire sa rentrée des classes comme il veut à l'Assemblée nationale, mais le signal qui sera envoyé au pays, c'est un bloc. Nous sommes un bloc, nous sommes une alternative.
Bruno Jeudy, proposition immédiatement retoquée par le PS, le PC et Europe Écologie Les Verts. Il s'en doutait, Jean-Luc Mélenchon. Il connaît fort bien la politique. Il savait bien que les socialistes voudraient siéger avec leur propre groupe. Pareil pour les communistes. Fabien Roussel a déjà émis beaucoup de réserves. Et pareil pour les écologistes. Pourquoi il tente ça?
Ben oui, mais il est comme ça, Jean-Luc Mélenchon. Il prend ses vessies pour des lanternes par moment. Et là, il a tenté un coup qui était perdu d'avance. Perdu d'avance. Et là, le jeu de NUP est terminé. C'est-à-dire que c'était une alliance électorale.
Joli jeu de mots, le jeu de NUP.
Mais oui, Laurence,
c'était
une alliance électorale qui a parfaitement fonctionné. Parce qu'avec un score, on va dire, assez moyen au premier tour et au deuxième tour, plutôt décevant d'ailleurs, il se retrouve avec beaucoup plus, avec deux fois plus de députés que les trois groupes réunis. Donc ça a fonctionné, j'allais dire, en termes de tactique, mais ça n'a pas dépassé tellement, c'est-à-dire que le Rassemblement national s'est multiplié par 11, donc il n'y a pas photo. Mais voilà, ça s'arrête là, le PS reprend ses billes, le PC reprend ses billes, les écologistes, on verra, parce que c'est quand même l'aile gauche des écolos là, qui est représenté. Ils sont susceptibles de faire un groupe. C'est le Parti communiste, je crois, qui va manquer peut-être un ou deux sièges. Mais bon, voilà, chacun va vivre dans sa petite maison et puis c'est reparti comme avant. Hein.
D'accord. Gilles Maitry, drôle de manœuvre de Jean-Luc Mélenchon.
Non, parce que je crois qu'il savait que c'était perdu d'avance. Il ne s'adressait pas aux députés ni aux autres membres de sa coalition. Il s'adressait aux électeurs de gauche. Et il voulait pointer du doigt en disant « Écoutez, regardez, on a fait l'union de la gauche, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et les électeurs de gauche sont allés voter de manière, à mon sens, invraisemblable, en se rangeant vers quelqu'un qui assume sa position d'extrême-gauche et ses positions qui sont à la limite du républicanisme sur plein de sujets. Mais néanmoins, ça a fonctionné, le cœur à gauche. Et maintenant, il dit « Regardez, c'est eux, les petits partis, qui reprennent leurs vieilles habitudes, type 4ème République, qui ne veulent pas continuer à faire la NUP. » Donc, ils se placent déjà dans l'après. Donc, c'est assez... c'est tribunicière, comme il sait le faire. Et c'est assez... Moi, je pense assez habile politiquement.
Et jusqu'à quand Alexandre Chauveau, il va pouvoir continuer à animer le débat politique, Jean-Luc Mélenchon, tout en n'étant pas élu député et tout en n'ayant pas réussi à obtenir le premier groupe d'opposition?
On voit que là, il commence tout doucement quand même à transmettre le flambeau à toute une génération qui a déjà émergé en 2017, qui a étoffé là avec ce scrutin de 2022. Sur son coup de poker, c'est raté, mais je suis assez d'accord. Enfin, il a tenté une fois, il s'est dit pourquoi pas la deuxième fois. Il avait en tête aussi la commission des finances, parce qu'on sait qu'on en a discuté tout à l'heure, mais ça revient traditionnellement au premier parti d'opposition. Je pense qu'ils ont été assez surpris de voir en fait le RN leur passer devant hier. Au vu des derniers sondages, ils s'attendaient clairement à être le premier parti d'opposition. Et ils ont été assez déçus de ce point de vue-là.
D'accord. Bon jeudi. Sur cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon
c'est le moment où il faut dessouler. Hein. C'est fini. Jean-Luc Mélenchon, il pensait avoir un appel du Premier ministre ce matin. Il a vendu une campagne du tonnerre. Ça a commencé même avant, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Le coup du Élisez-moi Premier ministre, ça a fonctionné au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Je crois même que son entourage immédiat, pour avoir discuté avec Manuel Bompard à l'époque, même était surpris finalement que le PS baisse vite les armes pour obtenir cette fameuse alliance qui a été conclue assez rapidement quand on sait d'où il partait. Et ensuite, ça a fonctionné, mais pas jusqu'aux espoirs de Jean-Luc Mélenchon. Et là, être doublé par le Rassemblement national, Alexandre le disait à l'instant, et se faire shipper la présidence de la commission des finances qu'il voulait offrir à son ami Éric Coquerel, eh bien, c'est raté.
Rien ne se fera avec Mélenchon et avec Marine Le Pen. Qui dit ça? C'est Xavier Bertrand. Et écoutons-le à l'arrivée au siège des LR.
On n'est pas là pour bloquer, mais on n'est pas à vendre. Donc pas question de rentrer dans une majorité présidentielle, pas question d'un accord de gouvernement. Mais une chose est certaine, c'est qu'à l'Assemblée, rien ne se fera avec M. Mélenchon et rien ne se fera avec Mme Le Pen. Rien ne se fera sans LR à l'Assemblée. Et au Sénat, on a la majorité.
Gilles Mintré, rien ne se fera sans LR. C'est la force d'appoint maintenant pour Emmanuel Macron.
D'appoint, c'est la force qui permettra de faire voter des textes. Ça, c'est juste mathématique. C'est une position assez évidente. C'est même une sincérité par rapport au mandat donné par les électeurs. Parce que la question s'était posée, vous vous souvenez, hein, après la présidentielle, il y a même eu Nicolas Sarkozy qui avait dit « Mais regardez, il faut construire tout de suite une majorité avec Emmanuel Macron, et comme ça, il n'y aura pas de candidat en marche en face. » Donc, cette ligne avait été d'ailleurs connu le succès qu'on sait, c'est-à-dire pratiquement nul. Les députés LR sont allés de leur propre fait sur une ligne d'opposition devant leurs électeurs. Ils ne vont pas le lendemain déchirer leur mandat en disant bah, « Attendez, finalement, on va construire un contrat de coalition qui, en plus, n'est pas du tout dans notre culture politique, qui appartient à d'autres cultures politiques qui sont plus, ça pousse plus sur du scrutin proportionnel. En tout cas, c'est pas chez nous. Maintenant, de dire qu'il n'y aura pas d'accord de coalition ne veut pas dire que les LR ne seront pas constructifs. Ils l'ont dit tout de suite. D'autant plus qu'on avait raillé Emmanuel Macron lors de la présidentielle en disant qu'il avait recopié les propositions de Valérie Pécresse. Donc si, effectivement, il vient proposer des textes de loi qui sont inspirés de ce qu'étaient les idées de la droite, on ne voit pas les LR ne pas les voter.
Bon, jeudi, il y a des majorités à trouver, évidemment.
La majorité est introuvable, donc il faut en trouver une, sinon le pays ne pourra pas être gouverné, pourra pas y avoir. Il y a des textes. Alors le gouvernement a le droit d'utiliser une fois le 49-3 par an, donc on peut dire que pour sa loi de finances, il peut assurer sa loi de finances, mais pour le reste, il faut trouver des majorités. Et en dehors des Républicains, des quelques socialistes raisonnables, quelques élus d'outre-mer, il ne reste pas beaucoup de choix à l'actuel gouvernement. Donc je pense que quand Xavier Bertrand dit « rien ne peut se faire sans eux », il a raison, Emmanuel Macron va devoir sauter dans le cerceau des Républicains. Ça, c'est clair et net. Et
là
ça
aussi,
va...
il n'est pas préparé, là.
Et il ne s'y est pas préparé et il ne va pas avoir le choix. Enfin, en tous les cas, c'est plutôt Elisabeth Borne, dans un premier temps, qui va s'essayer au saut dans le cerceau, mais ils n'auront pas le choix. C'est comme ça, les institutions sont faites ainsi. Je ne suis pas sûr qu'à moyen terme, ça arrange les Républicains, parce que ça va retarder, empêcher peut-être leur reconstruction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Christian Jacob a fait des déclarations martiales, mais on peut le comprendre. La plupart sont des rescapés. Il y a deux mois, on leur promettait l'opposition pour l'éternité. Bon, voilà, il y en a 64 qui survivent. C'est pas pour aussitôt se jeter dans les bras d'Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, Alexandre Chauveau, qui pourrait aller débaucher du côté de la droite, faire venir à lui un certain de députés LR, c'est possible?
Christian Jacob a commencé à y répondre tout à l'heure, et à juste titre. Je pense que presque tous ceux qui ont qui ont dû être débauchés l'ont déjà été. Hier soir, il y a simplement Jean-François Copé qui maintient sa position aujourd'hui, qui plaide pour un pacte de gouvernement. Mais en réalité, comme disait Bruno, tous les candidats qui ont fait campagne, tous les LR qui ont fait campagne, ils l'ont fait contre Emmanuel Macron. Aurélien Pradier dans l'autre, bon, même s'il n'avait pas de marché en face, mais bon, Éric Ciotti, je ne vous fais pas un dessin, dans les Alpes-Maritimes, Pierre-Henri Dumont dans le Nord, ils ont tous fait campagne contre Macron. Et ils commencent déjà à réfléchir, en cas d'une potentielle dissolution dans les prochaines semaines ou dans l'année qui vient, s'ils se mettent à coopérer avec Emmanuel Macron, il y en a qui ont peur d'être associés au macronisme. Donc, la coopération constructive, je demande à voir.
Et puis surtout, le paradoxe, ce qui est, quand on regarde la carte électorale de près, il y avait certains députés LR qui étaient prêts, eux, à faire un pas de deux avec les macronistes. Guillaume Larrivée, Sébastien Huyghe, il y en avait plusieurs. Eh bien, Emmanuel Macron leur a mis des candidats en face d'eux, ils ont été éliminés dès le premier tour. C'est-à-dire que ceux qui auraient pu justement servir ils n'ont pas été récompensés puisqu'ils ont été battus par des Républiques en Marche au premier tour.
En un mot, Gilles Maintré, il n'y aura pas de débauchage ? Les LR vont tenir les digues ?
Il faut plus 40 députés pour compléter la majorité, donc c'est plus des débauchages individuels. Il faut maintenant une autre façon de gouverner, comme on l'a dit, une autre façon de produire les lois. Et je pense que les LR, non seulement, effectivement, s'en sortent avec beaucoup plus de députés que ce qu'on avait annoncé dans des conditions très difficiles, mais il y a un autre chiffre que moi je voudrais souligner, c'est qu'ils n'ont perdu que deux de leurs duels face au RN. Dans la plupart des cas, ils ont gagné face au RN avec des scores...
Ils ont presque toujours gagné. Hein.
Pardon ?
En fait, ils ont presque toujours gagné.
Oui, ils ont presque toujours gagné.
Au deuxième tour,
60, 65, 70% des scores qui montrent que lorsque le LR est là, lorsque les LR sont là, effectivement, il y a une digue par rapport au RN.
Sauf à Paris.
Non, je parle du RN.
Ah, d'accord.
Bruno, parce que les LR sont voitures. Maintré, Alexandre Chauveau. Dans un instant, Alexandre Lemaire pour les informations de 20h et Mouloud Achour pour Vervain Underground sur Europe 1. Bonne soirée sur notre antenne.
Europe 1, 18h, 20h.
Punchline. Laurence Ferrari.